Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Le concours Miss France accusé d'être de discrimination et de ne pas respecter le code du travail est attaqué en justice.
Mohamed, votre story du jour.
Après l'assassinat du député britannique David Amos, je vous raconte la stupeur de tout un pays.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Moi, je raconterai l'histoire d'un jeune Britannique qui veut rester dans les années 90 pour toujours.
Patrick, votre édito du jour.
Une énorme surprise dans le débat public, une incroyable découverte. Les sujets économiques et sociaux intéressent les Français.
Et Fabien Roussel, voilà, enfin. À ce signe de satisfaction, enfin, yes. Parce qu'on soumet ce soir ce sujet-là au candidat à l'élection présidentielle, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Il a fait chaud aujourd'hui et je crois que vous avez promis de vous mettre en maillot de bain, c'était vendredi.
C'est bien mon genre de me mettre en maillot de bain sur un plateau de télévision.
Allez, relevez de température avant 20h.
On a l'archive.
On reçoit également Danny Boone et Laurence Arnay ce soir à la table de C'est à vous autour d'un menu avec du parmesan mais sans maroilles, blasphème Harold. On reçoit Danny Boone, les ch'tis, tout ça, ça vous dit rien. Et là c'est du parmesan.
Écoutez, on va essayer d'utiliser des produits italiens puisque le bistrot est entre la France et l'Italie et pas le nord de la France et l'Italie.
Vous en sortez bien. Harold Imbeau, chef propriétaire du bistrot Frasarin à Lyon. Bon, là, c'est du parmesan soit, mais sur du foie gras poêlé.
Exactement. Ce soir, je vais vous présenter un plat que je fais au restaurant. Donc, du foie gras poêlé servi avec du maïs, qui est un légume de saison, et une petite crème de parmesan et une réduction de Porto.
Merci beaucoup, Harold. Merci. À tout à l'heure. Mais d'abord, avant toute chose, l'édito de Patrick Cohen. L'économie revient dans la campagne présidentielle, Patrick.
Oui, l'économie, le pouvoir d'achat, la transition énergétique, il y a là de quoi rassurer tous ceux qui redoutaient que les 6 mois de campagne à venir ressemblent au bandeau permanent de la chaîne CNews, immigration, insécurité, islam, immigration, etc. Et souvent les trois en même temps. La réalité a fini par renverser cet agenda identitaire. La réalité, c'est le retour de l'inflation, c'est la flambée des prix de l'énergie. Ce sont des millions de Français laissés pour compte, une pauvreté encore aggravée pendant la crise du Covid, malgré le quoi qu'il en coûte, pas seulement pour les chômeurs et les mères célibataires, mais aussi des jeunes actifs avec enfants qui ont un travail peu qualifié et mal rémunéré dans le privé et qui peinent à payer leurs factures et parfois à se nourrir. Ce constat, il ne vient pas d'un tract du Parti communiste, mais des associations et aussi d'un rapport officiel de France Stratégie, rapport publié hier, la lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus. En résumé, si les mesures d'urgence du gouvernement ont été massives et bien ciblées, si le revenu des salariés a été maintenu, y compris chez les ménages modestes, il y a bien une montée de la précarité et des recours à l'aide alimentaire. La reprise économique en cours ne doit pas faire oublier que la crise sanitaire a souligné et accentué les inégalités existantes et renforcé la précarité, écrit France Stratégie.
Est-ce que ça veut dire que les questions économiques et sociales vont dominer cette campagne ?
Alors rien n'est écrit, une campagne c'est une alchimie particulière entre des citoyens, des candidats, des médias et une actualité que personne ne maîtrise. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, tous les candidats déclarés ont présenté des propositions en faveur des Français les plus modestes. Hausse du SMIC ou de tous les salaires, prime au travail ou baisse des cotisations, etc. On va en discuter, en débattre, mais les idées sont sur la table à des degrés divers. Il y aurait largement de quoi débattre entre candidats.
Et Éric Zemmour, des propositions ?
Mais il n'est pas candidat. Non, je rigole. Disons qu'il a présenté il y a 2 semaines à Lille une esquisse de programme sur le plan économique de droite libérale, classique, mais très libérale. Zemmour est sur le plan économique plus filloniste que lepéniste, mais avec une différence de taille. Là où François Fillon voulait financer ses baisses d'impôts par la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, Éric Zemmour propose de tout résoudre par l'arrêt de l'immigration et la suppression des prestations sociales aux immigrés. on y revient, et lui veut y revenir, c'est la raison d'être de sa campagne. Je veux imposer la question de l'immigration dans cette campagne. Celui qui gagne, c'est celui qui impose son thème, disait-il sur RTL il y a 10 jours. Voilà, l'un des enjeux d'une campagne, c'est pas seulement de savoir, c'est pas seulement ce qu'on donne à entendre, c'est de savoir de quoi on parle.
Bonsoir Fabien Roussel.
Bonsoir.
Secrétaire national du Parti communiste français et donc candidat à l'élection présidentielle. Vous étiez heureux, soulagé d'entendre qu'enfin les questions du pouvoir d'achat et les questions sociales arrivaient, étaient enfin débattues dans cette campagne. Vous désespériez de voir Éric Zemmour et d'autres candidats se concentrer uniquement sur les questions de sécurité et d'immigration ?
C'est particulièrement rageant, oui, parce que j'entends bien, moi, en étant dans ma circonscription, à Saint-Amand-les-Eaux ou en parcourant la France, que la principale préoccupation de nos concitoyens, c'est quand même celle de pouvoir vivre dignement. C'est cette question du pouvoir d'achat. Mais derrière le pouvoir d'achat, il y a les factures, mais il y a aussi les pensions, les retraites, les salaires, les conditions de travail. Il y a quand même une colère qui est là, qui est palpable. Et c'est comme si dans les médias, il y avait un étouffoir.
C'est la faute aux médias,
Non, justement, j'allais dire tout de suite. Comme si dans les médias, il y avait un étouffoir et que l'on ne parlait pas de ça parce que le paysage, campagne a été occupée, obnubilée par un candidat, des idées qui ont capté comme ça l'attention.
Il a été vampirisé par Éric Zemmour, il a vampirisé cette campagne.
Je l'ai entendu chez moi. Je l'ai entendu chez moi en allant dans les banquets des associations de nos aînés. J'entendais les gens qui me disaient mais pourquoi ils parlent que de lui ? Pourquoi ils parlent pas de nous à la télévision ? On en a marre, on souffre. Et c'est là où on entend fortement la question des prix de l'énergie. Je sais qu'on va en parler, mais c'est pour vous dire qu'en même temps qu'on occupait l'espace médiatique avec ce personnage, en même temps, les gens recevaient leur régulation de charges d'électricité et de gaz.
Régulation des factures.
La régulation des factures. Et donc, moi, j'ai reçu en permanence des gens qui venaient avec leur régule en disant, mais pourquoi cette fois-ci, on me prélève 250 euros alors que d'habitude, c'est 30 ?
Fabien Roussel, il n'empêche qu'il continue de grimper dans les sondages, Éric Zemmour. Donc, les sujets qu'il traite en permanence sur les médias, intéresse, interpelle.
Moi, je voudrais faire grimper l'espoir dans les sondages. Et donc, je voudrais qu'on puisse parler de solutions pour la France, pour les Français, pour le pouvoir d'achat. J'entends bien. Mais vous savez, c'est un petit peu comme quand on veut installer un tube l'été.
Hein, un tube de l'été.
Certainement que les radios vont se mettre d'accord sur un ou deux titres.
Et là, puis on va l'entendre
tous les jours, matin, midi et soir. Et au bout d'un moment, la musique s'installe. Et là, il y a une musique qui s'installe en France qui est particulièrement inquiétante, dangereuse. Et oui, ça me préoccupe gravement, oui.
Vous voulez rendre inéligible toute personne condamnée pour racisme et incitation à la haine raciale. C'est le meilleur moyen pour vous de combattre Éric Zemmour ? Il ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle ?
Bien sûr que non, ce n'est pas le meilleur moyen, parce que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va guérir la fièvre. J'en ai bien conscience. En revanche, nous sommes dans notre République française avec une histoire forte et des valeurs. Et je dis simplement que quand on se présente à la présidence de la République française, eh bien, on ne peut pas se présenter et avoir été condamné pour incitation à la haine raciale, pour discrimination, pour fait de religion.
Par exemple, dans le code pénal, mais c'est laissé à l'appréciation des juges.
Exactement.
Qui ne l'ont pas jugé utile, précisément, de l'appliquer à Éric Zemmour.
Exactement. En tant que député, j'ai voulu creuser la question, justement. Donc je me suis penché sur le sujet. C'est pour ça que j'ai proposé une résolution, plutôt, au vote de l'Assemblée nationale. Une résolution qui invite le ministère de la Justice à faire circuler une circulaire, une instruction aux juges, au parquet, en leur demandant d'appliquer ce qui existe déjà dans le code pénal. Vous savez, le ministre peut dire sur tel fait, il faut veiller, la loi existe, et il faut juger avec sévérité ceux qui commettent justement cette infraction. Ça existe dans le code pénal, donc il faut justement l'appliquer. Je fais confiance à nos magistrats pour l'appliquer. En tout cas, là, nous avons un personnage qui réhabilite Pétain, qui réhabilite Papon. On vient en plus de commémorer l'anniversaire du 17 octobre 61. Et c'est extrêmement grave pour notre pays.
Cette année, plus besoin d'attendre Halloween pour se faire peur. Juste besoin d'aller faire son sont pleins d'essence. Ça, c'est le sens de votre tweet d'hier pour dire que la hausse des prix des carburants, c'est carrément un film d'horreur. C'est l'automobiliste qui parle, hein, celui qui fait son plein à Saint-Amand-les-Eaux.
Ben oui, parce que j'habite dans un département, une ville de 16 000 habitants, c'est une circonscription semi-rurale, et donc je connais plein de gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler, conduire leurs enfants à l'école, après aller travailler, enfin...
Et pour les aider, vous ne voulez pas entendre parler du chèque carburant ?
Ben, le chèque carburant, c'est comme le chèque énergie, c'est ciblé à un certain nombre de personnes et on va en laisser plein de côté. On va laisser trop de monde de côté. D'ailleurs,
vous voulez faire baisser les taxes, quitte à favoriser tout le monde, y compris les plus aisés. Mais, comme si vous tendiez la main aux plus riches.
C'est
étonnant de la part du Parti communiste français.
Mais j'entends tout le temps ça comme argument selon lequel il ne faudrait pas faire baisser les taxes parce que même les riches avec leur SUV en bénéficieraient. Oui, mais alors, donc du coup, on ne fait rien. Je ne suis pas d'accord. Moi, les plus riches, nous avons proposé de leur faire payer l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts plus élevés. Ce qui ferait rentrer des sous dans les caisses de l'État pour justement financer ces baisses de taxes. Et d'ailleurs, le gouvernement va proposer un chèque énergie pour les plus pauvres d'entre nous. Mais les classes moyennes, ou même pas les classes moyennes, le couple d'enseignants, l'hôtesse de caisse qui perçoit 1200, 1300 euros net par mois, elle n'aura pas le droit à ce chèque carburant, ou ils n'ont pas le droit à ce chèque énergie. Et puis tous ces artisans, ces commerçants qui ont de l'or dans leurs doigts et qu'une camionnette pour travailler, l'agriculteur qui a son tracteur, enfin, ils sont tous pénalisés, ils ne recevront pas de chèque énergie. Et donc, la nation, l'État, doit pouvoir protéger tous ses citoyens, tous, et les plus riches doivent participer à la solidarité nationale.
Vous avez appelé les Français à se rassembler à partir du week-end prochain devant les préfectures et les sous-préfectures. Vous préférez les voir là que sur les ronds-points où les Gilets jaunes les appellent de nouveau ?
Non, je laisse libre chacun d'organiser la contestation ou de porter la colère. Moi, j'étais très respectueux du mouvement des Gilets jaunes et j'ai participé à nombreuses de leurs manifestations. En revanche, en tant que moi, responsable politique, je dis que nous ne pouvons pas attendre avril 2022. On ne peut pas attendre 6 mois, on ne peut pas attendre les élections pour que ça bouge. Et il faut que ce président de la République entende la colère qui couve dans le pays. Et je propose pour ça à ce qu'on aille interpeller dans toutes les régions de France, dans tous les départements, les préfets, les sous-préfets, pour leur dire on n'en peut plus. J'entends, je rencontre des élus, des maires de communes qui sont, eux, confrontés à leurs concitoyens. Et même les communes n'ont pas les moyens de répondre aux besoins de leurs gens. Donc, tous ensemble, on peut aller 50, 100, 150 devant une préfecture et puis dire ça suffit, il faut que ça monte, il faut que ça monte d'en bas, il faut que ce président des riches entende que le peuple de France n'en peut plus et qu'il va falloir délier les cordons de la bourse définitivement.
Et qu'il va falloir augmenter les salaires, c'est une de vos propositions, comme d'ailleurs tous les candidats à la présidentielle. Mais vous souhaitez indexer l'augmentation des salaires en fonction de l'utilité sociale des emplois. C'est quoi l'utilité sociale des emplois? Et puis qui décide d'un emploi qui serait plus utile socialement qu'un autre?
Vous avez remarqué donc cette proposition un peu originale que j'ai portée, que je souhaite mettre en débat et soumettre à la discussion des chefs d'entreprise, de leurs organisations et des organisations syndicales.
Ce n'est pas contraint donc, ils pourront décider.
Non, il faut en discuter ensemble. Mais j'ai fait cette proposition parce que j'ai remarqué que pour 5 millions de nos concitoyens, ceux qui ont été en première ligne, 80% des femmes, ce sont des métiers infirmières, aides-soignantes, les femmes de ménage, les hôtesses de caisse, les AESH, les accompagnements qui manifestaient aujourd'hui, les aides à domicile, essentiellement des femmes, des métiers essentiels, utiles. C'est eux qui ont tenu le pays à bout de bras. Elles sont payées 800, 900 euros par mois. Elles ont des salaires qui n'évoluent pas. Elles n'ont pas d'évolution de carrière.
Vous avez vu le film de François Ruffin, député de la France Insoumise, consacré à ces femmes-là ?
Mais bien sûr, qui est poignant. Ce sont les métiers les plus importants dont on a besoin et les plus méprisés. Par contre, un trader gagne beaucoup d'argent, mais lui, il ne sert à rien. Je vais même dire qu'il nous pourrit la vie. Et donc, comment on fait ?
Ça veut dire qu'il ne sert à rien, donc on...
Comment peut-on accepter de vivre dans une société où ceux qui ne produisent rien et ne sont, je ne vais pas dire d'aucune utilité, mais enfin d'une utilité dont on peut discuter, vont amasser des fortunes, et par contre, ceux qui sont les plus utiles sont méprisés. Il faut inverser. Et donc, dans les négociations de salaire, les NAO, les négociations annuelles qui se tiennent tous les ans par branche, pourquoi n'inventerions-nous pas un coefficient multiplicateur pour faire en sorte que, pour démarrer les discussions, au moins l'État dise « ces métiers, nous en avons besoin ». Et il faut les revaloriser pour que des jeunes aient envie de s'investir dans ces métiers. Et puis pour que ces femmes, enfin, aient un salaire qui leur permette de vivre dignement. Et donc, c'est une mesure que je mets, une proposition que je mets dans le débat. D'abord, ça serait un bon rattrapage salarial pour toutes ces professions et ceux qui ont été les premiers de cordée. Et ça revaloriserait des métiers qui en ont véritablement bien besoin.
La gauche. La gauche en quelques chiffres. Fabien Roussel, 2. Anne Hidalgo, 4. Yannick Jadot, 7 ou 8. Ou 6. Jean-Luc Mélenchon, 8 ou 9. Total, si on ajoute les petits candidats Trotsky, ça fait une vingtaine de pourcents, 20 à 25% pour la gauche. Commentaire de François Hollande dans une interview qu'il donne aux Parisiens au moment de la parution de son livre. À gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. Elles se livrent à des batailles aussi picrocolline que microscopique. Alors, je ne sais pas quel est l'adjectif que vous voulez commenter, lilliputienne, microscopique ou picrocolline. Je vous laisse le choix, Fabien Roussel.
J'ose pas dire ce que je pense de la part de ce président de la République qui a eu un mandat terrible et qui fait peut-être que la gauche en est à ce niveau-là aujourd'hui.
Ah, c'est de sa faute.
Non, mais je rappelle qu'en 2012, il préside la France avec un gouvernement PS Vert. En 2012, c'est l'Union des Verts et du PS qui préside à ce gouvernement avec des ministres écologistes. Et le bilan de ce gouvernement, c'est que, alors qu'il avait dit que mon ennemi, c'est la finance, c'est qu'il a fait tous les cadeaux qu'il fallait aux plus riches et que les classes populaires ont été les oubliées de ce quinquennat.
Mais son constat aujourd'hui, vous le contestez ? Mais
non, je le conteste pas. Mais pour quelle raison ? Mais pour quelle raison cette gauche en est à ce niveau ? L'analyse que j'en fais, c'est que justement, quand la gauche a été au pouvoir, elle a oublié les classes populaires, elle a oublié le monde du travail, elle a oublié d'où elle venait et ce qu'elle devait faire. Et donc aujourd'hui, il y a une partie des Français qui ont pu voter à gauche et qui s'en détournent parce qu'ils se sont sentis trahis. Eh bien moi, je veux retrouver justement de la sincérité à gauche et je voudrais redonner ces belles valeurs que la gauche a pu avoir et qu'elle doit retrouver. Parce qu'on est dans une telle situation dans notre pays, catastrophique, de sanitaire et économique, qu'il va falloir bien reprendre
le
pouvoir.
Vous êtes quatre à vouloir le faire.
Oui, mais non, je suis le seul.
Les autres, ils veulent pas.
Je suis le seul à vouloir mettre les richesses que nous produisons au service de la planète et des citoyens, des êtres humains. Je suis celui qui dit que nous devons produire autrement et reprendre le pouvoir sur les productions de nos richesses. Je suis le seul à dire que, justement, l'énergie nucléaire, nous en avons besoin pour faire baisser la facture d'électricité de nos concitoyens et retrouver notre indépendance nationale. Sur tous ces sujets, j'ai pris des positions courageuses et notamment, regardez la gauche, je suis le seul à gauche qui dit que la tranquillité publique et la sécurité de tous, ça doit être aussi une de nos priorités, parce que ceux qui se lèvent tôt ou se couchent tard, on doit aussi de dormir et de vivre dans des endroits sécurisés et tranquilles. Eh bien, ce discours original et fort, je compte le porter, oui, jusqu'à la présidence de la République. Et ça redonnera peut-être des couleurs à la gauche.
François Hollande,
et des belles couleurs.
Qui publie un ouvrage qui s'appelle « Affronter », qui sera demain sur ce plateau à votre place, l'invité de cet à vous. Quelques questions à vous, Président. Moi, président Fabien Roussel, je nomme une femme Premier ministre.
Oui.
Oui, Anne Hidalgo.
Ah bah ça, écoutez, ça va.
Oui ou non ?
Bah pourquoi elle en particulier ?
Parce qu'elle est la candidate du Parti socialiste.
Mais d'abord, on se rassemblera sur un programme et des idées.
Sandrine Rousseau, alors.
Mon programme, c'est les jours heureux. C'est des réformes heureuses pour notre pays.
Et avec Anne Hidalgo, c'est pas
donc,
des jours heureux.
Mais si on arrive à se mettre d'accord sur un programme et tous ensemble, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai pas d'objection. Je connais Anne Hidalgo, bien sûr, et donc je n'ai pas d'objection sur la personne. Ce qui compte, ce sont les idées. Il n'y a pas d'aventure personnelle dans une campagne présidentielle.
Moi, président, je fête ma victoire au Louvre comme Macron, place de la Bastille comme Hollande, au Fouquet's comme Nicolas Sarkozy ou...
Chez les Ch'tis, dans le Nord, à Saint-Amand-les-Eaux.
C'est vrai ?
Avec une bonne bière, mais je l'aurais dit en plus chez moi.
Au casino de Saint-Amand-les-Eaux ? Il y a un casino dans votre ville. Hein.
Non, mais il y a aussi... Oui, il y a un casino aussi.
Ah bah oui, il y a un casino.
Il y a le casino, bien sûr, un casino très important, avec
fortune.
De nombreux salariés, mais il y a aussi...
de richesse qui ne vient pas du travail.
Il y a aussi des bistrots. Et je voudrais faire de l'Élysée un lieu populaire. Et donc,
vous vous y installez avec votre famille ? Est-ce que, par exemple, vous supprimez le titre de première dame ? Ça, c'était une proposition de François Asselineau, qui disait qu'il ne voulait pas d'une médiatisation ostentatoire et indécente de la famille du chef de l'État.
Ça, c'est clair, parce que d'abord, mon épouse ne le souhaitera pas et elle le refusera.
Donc, vous,
elle
vous
va continuer de travailler, puisqu'elle est fonctionnaire territoriale à Lille. Mmh. Elle part travailler tous les matins, elle rentre le soir, elle prend le TER comme tout le monde. Elle subit la loi des 1607 heures. On va lui supprimer 10 jours de congé, comme à tous les fonctionnaires territoriaux. D'ailleurs, elle est très en colère, mon épouse. Et si je suis président de la République, je supprimerai cette loi injuste pour tous les fonctionnaires territoriaux. Et je continuerai de vivre à Saint-Amand-les-Eaux, dans ma commune, de cœur, parce que garder les pieds sur terre et dans son territoire, auprès des gens que l'on connaît, de ses amis, de son entourage, de ses voisins, eh bien, ça nous permet aussi de prendre régulièrement le pouls de la France, mais le vrai pouls qui bat.
Et l'Élysée, vous en faites quoi, alors ?
Un lieu populaire.
Un endroit où on travaille, où on reçoit, où on organise des rencontres, des conférences, mais c'est la maison du peuple. Et puis surtout, je voudrais mettre fin au présidentialisme. C'est-à-dire que ce n'est pas au président de la République de tout décider tout seul. Je veux redonner le pouvoir au Parlement, à l'Assemblée nationale, et c'est surtout ça la priorité.
Merci beaucoup Fabien Roussel. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut Babette, salut à toutes et à tous.
Une semaine après l'assassinat d'un député britannique, l'émotion était toujours extrêmement forte outre-Manche.
Le 15 octobre dernier, le député britannique David Ames était mortellement poignardé dans sa permanence. L'homme politique conservateur a été victime d'une potentielle attaque terroriste. Ce week-end, sa famille s'est recueillie sur le lieu de l'assassinat et le Parlement lui a rendu un hommage poignant.
Today, on behalf of the entire Labour Party, I want to lean across, to reach across, and to acknowledge the pain that's felt on the opposite benches, and I do.
Many of the tributes have been peppered with happier memories and laughter. MPs and peers then left Parliament and crossed the road to St. Margaret's Church for a service of remembrance.
David Ames était un proche du Premier ministre Boris Johnson, qui lui a également dédié un discours émouvant.
The reason I think people are so shocked and saddened is, above all, he was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics. David was a man who believed passionately in this country and in its future. And we've lost today a fine public servant and a much loved friend and colleague.
Assassiné par un Anglais d'origine somalienne, fasciné par un prêcheur islamiste, la mort de David Ames inquiète tout le gouvernement anglais. La ministre de l'Intérieur parle de nouveaux terroristes en chambre depuis la pandémie du Covid. Les Britanniques s'inquiètent de l'augmentation de la radicalisation en ligne durant les confinements. Les jeunes auraient été ainsi plus exposés à la propagande extrémiste. La fermeture des écoles, des clubs sportifs et des associations aurait rendu la détection des signes de radicalisation beaucoup plus difficile. 5 ans après le meurtre de la députée Jo Cox, assassinée par un monarchiste d'extrême droite, et après le drame vécu par David Ames, la ministre de l'Intérieur a demandé le renforcement de la sécurité des députés au Royaume-Uni.
We will carry on. We live in an open society, democracy. We cannot be cowed by any individual or any motivation, people with motives to stop us from functioning, to serve our elected democracies.
Pour l'ancien ministre des Affaires européennes et député britannique Denis McShane, c'est quasiment impossible de protéger chaque élu anglais.
On ne peut pas mettre un flic à côté de chaque député parce que c'est la fin de notre système très personnalisé chez nous, d'être toujours un peu plus auprès des électeurs, je dirais, qu'en France et des autres pays européens. Parce que quand nous avons l'habitude d'être très présents dans notre circonscription les week-ends, on est normalement aux maisons, donc on va faire des courses, on va à un match de rugby et on est toujours accessible.
Un match de rugby pour Denis McShane. En tout cas, quelques 650 députés ont été contactés par la police ce week-end et des policiers ont protégé les lieux où se tenaient des permanences parlementaires samedi. Fabien Roussel, vous êtes député du Nord. Est-ce que vous pensez que la sécurité doit être renforcée aussi en France autour des élus politiques ? On se souvient des épisodes, par exemple, des Gilets jaunes.
D'abord, nous avons rendu hommage, nous aussi, à l'Assemblée nationale, à David Ames aujourd'hui. Et c'était important de le faire. Je ne pense pas personnellement qu'il y a besoin de mettre une garde rapprochée ou d'augmenter la sécurité des députés. Il y a 577 députés, il y en a un peu moins de sénateurs. Mais il y a un vrai sujet, comment dire, de démocratie où, en fait, les responsables politiques, les parlementaires, sont vite montrés du doigt, souvent jetés en pâture. Et la politique, c'est mal aujourd'hui. Nous sommes tous globalement responsables de ce qui ne va pas dans le pays, indistinctement de nos opinions, de nos étiquettes politiques. Et je le ressens, moi aussi. Et pourtant,
il y a une défiance à l'égard
des politiques vis-à-vis de tous les politiques. Il y a eu des propos durs tenus contre les partis même. Les partis ne devraient plus exister, les partis ne servent à rien, le Parlement ne sert à rien, on a entendu ça aussi, parfois même chez les Gilets jaunes, le Parlement ça ne sert à rien. Et donc, il y a un climat dangereux, et il faut s'en préoccuper. Je reçois moi-même des lettres de menaces chez moi.
Je n'ai pas porté plainte,
je les garde, je devrais porter plainte, il faudrait que je le fasse, mais... c'est vrai que c'est lourd. Mais en même temps, on a une responsabilité. C'est celle d'améliorer la vie des gens et de montrer qu'on sert à quelque chose. Voilà. Alors, quand on est député, on le fait en étant un député de terrain, en étant présent, en essayant au mieux de répondre aux problèmes des gens. Moi, je tiens encore mes permanences le vendredi et j'essaye au mieux d'apporter des réponses. Et c'est vrai que quand on vote tous les cinq ans, qu'on vote pour des députés, puis que dans sa vie, on voit que ça ne change pas et que ça se dégrade et qu'on vit toujours aussi mal, ben, la colère, elle explose. Mais je ne veux pas... ce qu'il ne faut pas, c'est que cette colère, elle dégénère en violence et en drame.
Merci beaucoup, Mohamed Bouafsi. À tout à l'heure pour la Story Média. L'association Oser le féminisme attaque l'élection Miss France en justice. Un concours sexiste et contraire au droit du travail. Aux yeux de ces féministes qui sont depuis des années vent debout contre ce concours de beauté, c'était un moyen de frapper du poids sur la table, Émilie.
Oui, des critiques qui ont toujours existé. Il y a même eu des manifestations. Alors, elles n'ont pas réuni en masse, mais elles ont existé. Il y a 10 ans déjà, plusieurs manifestations ont eu lieu à Brest ou comme ici à Caen.
Mais soudain, au milieu de ce concours de sourires blancs et mailles devant des commerçants canés ravis, des voix dissonantes se sont fait entendre. Des militantes féministes se sont invitées au bal des Miss.
On trouve inadmissible que, bon voilà, on représente de cette manière la femme, où toutes les femmes doivent correspondre à un modèle.
Plus récemment, l'association Oser le féminisme, qui déjà il y a 5 ans tentait de mobiliser à Montpellier contre le concours de beauté. On n'est pas des culs, on n'est pas des seins, on est des personnes. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes. Des critiques qui sont d'ailleurs sensiblement toujours les mêmes. Le concours Miss France serait misogyne, sexiste, car il réduirait la femme à un rôle de potiche, sans compter le côté discriminatoire, car il ne diffuse qu'un seul modèle de ce que serait la beauté des femmes. On ne verra jamais une Miss France petite ou en taille 44. Donc sexiste, misogyne, c'est en effet les impressions qui nous viennent quand on visionne ce programme qui date de 1977. Patrice Lafont et son acolyte de l'époque, Alain Bougrain-Dubourg, nous emmenaient dans les coulisses du concours de beauté.
Quelles étaient tes premières réactions de journaliste, déjà ?
Bien, je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à faire la différence entre cette présentation et le salon de l'agriculture.
Mais là, elle planche, Alain. Il s'agit de quoi ?
Eh bien, il s'agit d'un test qui va, en principe, mettre en évidence leurs qualités morales et intellectuelles.
Oui, on le voit, d'ailleurs.
Ouais. Qu'est-ce que tu vois ?
Rien.
Non. On a des propos, des plans aussi inacceptables que l'on pourrait, d'ailleurs, attribuer à l'époque, finalement, plus qu'au concours. Depuis sa création en 1920, Miss France n'a eu de cesse d'évoluer. Et d'ailleurs, là, il y a plus de mise en scène, des règles d'admission assouplies, un jury 100% féminin l'an dernier. Cette année encore, d'autres changements vont venir pour axer davantage la sélection sur la personnalité des jeunes femmes et non sur leur seul physique. Et puis, argument imparable, c'est l'audience, 7 millions de téléspectateurs en moyenne, jusqu'à 9 millions l'an dernier, c'était un record. Le programme est plébiscité par les Français et il se hisse dans le top 3 des meilleures audiences de TF1.
Pour parler ce soir de cette plainte au prud'homme, on accueille la porte-parole d'Oser le féminisme, Alissa Arabar. Bonsoir Alissa Arabar, bienvenue sur le plateau de C'est à vous, porte-parole d'Oser le féminisme. On va revenir sur le fond de cette plainte au prud'homme et sur sa recevabilité. Mais sur la forme, l'idée c'est quoi ? C'est de frapper un grand coup parce que jusque-là, malgré vos protestations, rien ne change, vous prêchez un peu dans le désert ?
Voilà, c'est ça, année après année, donc on se prononce pour dénoncer le sexisme de cette émission qui a un impact sur l'ensemble de la société, à notre sens. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin. Vous l'avez dit, il y a eu des mesures qui ont été prises, par exemple un jury féminin, ce genre de choses, mais on voit que l'essence même du concours, le règlement qui conditionne du coup qui sont les candidates et qui
vous
va être représentée...
Vous dites qu'il est discriminant.
Et discriminant.
C'est-à-dire concrètement, parce qu'on demande aux candidates d'être célibataires, de ne pas boire ni fumer en public et de ne pas faire d'ironie ça, en politique. Ça, c'est une vraie règle.
Entre autres, c'est ça. Vous les avez citées les plus, pour moi, les plus frappantes. Ne pas faire d'ironie en politique. Donc, on voit qu'il y a des injonctions à la fois sur les physiques, donc garder la même coupe de cheveux et le même poids tout au long du concours, mais aussi sur les comportements. Effectivement, ne pas boire d'alcool en public, ne pas fumer en public, ne pas avoir de tatouage. Et il y a cette idée de statut matrimonial qui, pour nous, reflète cette volonté d'avoir des misses disponibles sexuellement, puisqu'on doit être célibataire, sans enfant, pas veuve, pas mariée, véritablement.
Et quand on est célibataire, on est disponible sexuellement.
C'est l'idée à travers les mythes du patriarcat, cette idée de contrôle des corps des femmes. On va être soit une maman mariée, avec des enfants.
Sur cette question-là,
soit
la patronne
femme célibataire et auquel cas plus désirable parce que entre guillemets disponible sexuellement. Pour nous, ce sont les modèles, les stéréotypes qui existent dans la société et qui sont reflétés.
C'est
par
appelé à changer, hein, parce que la patronne maintenant de la société Miss France, Alexia Larouche-Joubert, elle a dit que c'était des règles obsolètes.
Hein, donc... tant mieux, c'est ce qu'on souhaite que ça change.
Il n'empêche, la plainte est déposée non seulement par l'association, mais aussi par trois candidates qui ont dû renoncer à se présenter à ce concours. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on leur reprochait ?
En fait, ce sont des femmes qui ont souhaité se présenter et qui, en voyant les règles du concours, se sont rendues compte qu'en fait, ça leur était impossible. Et de là, elles ont ressenti un sentiment d'injustice qui se traduit parce qu'il y a des critères qui sont discriminants.
Personne ne les obligeait à se présenter.
Oui, personne ne les obligeait à se présenter. En fait,
et puis, les organisateurs sont libres de fixer des règles dans la mesure de la légalité. Aucune d'elles ne postule à un poste administratif, par exemple.
Dans la mesure de la légalité, tout à fait.
Mais c'est un concours. Ce n'est pas un concours pour occuper une fonction ni un poste.
Alors, il y a un CDD à la clé du concours Miss France. Et au-delà de ça, on considère que le concours Miss France est en lui-même...
Pour celle qui gagne un CDD.
Oui, pour celle qui gagne, tout à fait. Mais en soi, le concours est une prestation de travail, puisqu'il y a des horaires, il y a des répétitions, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. La jurisprudence française, elle-même, a déclaré, il me semble que c'était en 2013... que le concours Mister France était relevé d'une prestation de travail de la part des candidats. Ça a été pareil pour Miss Maghreb. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas pour Miss France.
Si les Miss étaient embauchées, rémunérées, si elles signaient un contrat, puisqu'elles participent à un show et qu'elles travaillent, en quelque sorte, vous trouveriez ça moins sexiste ?
Oui, tout à fait, parce qu'il n'y aurait pas cette notion d'exploitation d'une société qui tire profit d'un travail gratuit de la part des femmes. Et au-delà de ça, si la prestation de travail était reconnue, il y aurait du coup une nécessité d'appliquer le droit du travail. Et dans ces cas-là, toutes ces dispositions sexistes du règlement qu'on a cité auparavant devraient être modifiées, puisqu'elles sont discriminantes et elles sont contraires au droit du travail.
Qu'elles défilent en maillot de bain ou pas, c'est pas ça le problème, alors ?
Bah, justement...
C'est ça le problème ou pas ?
Pour nous, ça fait partie du problème. C'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes.
Elle devrait être rémunérée et ne plus défiler en maillot de bain.
Dans l'affaire...
Donc, en gros, vous voulez la fin de ce concours Miss France, en fait.
Ce qu'on demande, c'est d'avoir un concours qui reflète la société actuelle, à la fois au niveau des modèles physiques, à la fois au niveau des valeurs et au niveau des injonctions ou pas qui pèsent sur les femmes. Aujourd'hui, et ça, c'est très important pour moi de le dire, parce qu'on nous... On nous questionne sur les sujets qu'on choisit ou pas de traiter. Donc, on traite énormément de sujets à Oser le féminisme. Je vous invite à consulter nos réseaux sociaux et notre site. Mais pour nous, ce qui est important, lorsqu'on s'attaque à une émission qui a autant d'audience et à ce qu'elle représente en termes d'injonctions physiques pour les femmes, ça va vraiment être cette idée selon laquelle s'il y avait plus de diversité dans cette émission, ça aurait un impact sur la manière dont les filles et les femmes se sentent dans la société actuelle.
Vous allez réagir dans un instant, mais justement, quelles sont ces jeunes filles qui gagnent les concours Miss France et quelle image elles donnent de la jeune femme aujourd'hui en France en 2021.
Oui, c'est vrai qu'on a regardé les carrières des Miss France ces 10 dernières années et elles n'ont pas franchement à pâlir. Si on regarde Iris Mittener, Miss France, Miss Univers 2016, elle était en 5e année de faculté dentaire quand elle a passé le concours. Donc là, elle a mis son projet entre parenthèses, mais elle fait de la télé, de la radio et elle affiche près de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Flora Coquerel, 2014, elle a fondé Kelina, une association au profit des femmes et des enfants du Bénin dont elle est aujourd'hui la présidente. Marine L'Orphelin, en 2013, est en train d'achever son cursus de médecine générale. Elle se spécialise en gynécologie. Laurie Tillman, 2011, qu'on ne présente plus, entrepreneur. Elle a écrit 2 livres, elle monte une ligne de vêtements, animatrice, télé, influenceuse. Bref, ce sont des parcours qui sont à chaque fois inspirants. On a vu d'ailleurs qu'elles arrivaient à cumuler plusieurs carrières, plusieurs images. Elles peuvent en être fières, en fait.
Bien sûr. Moi, je suis ravie pour elles et je suis ravie que les femmes puissent avoir des rôles modèles.
Mais c'est Miss France qui leur a donné ce tremplin social.
Alors, du coup, il y a deux choses que j'ai envie de vous répondre. La première, c'est que, du coup, ce tremplin proposé par Miss France n'est pas proposé à toutes les femmes, puisqu'on a tous ces critères discriminants qu'on vient de citer. Donc, sous prétexte d'être trop âgée ou trop petite ou mariée ou d'avoir eu un enfant, ben, du coup, on n'a pas accès à ce tremplin que vous venez de décrire. Et la seconde chose, c'est est-ce que...
On peut participer à d'autres émissions de télécrochet. Enfin, il y a mille et une façons de s'exprimer à la télévision et de faire valoir ses talents. Ou ses...
Tout à fait, mais...
Pas que la télévision. Pourquoi...
Oui, pas que la pas télévision, qu'à la télévision, évidemment. Et justement, on sait que pour les femmes, c'est difficile. Ces opportunités sont plus limitées dans la société que pour les hommes. Et moi, j'estime, et Oser le féminisme estime, que lorsqu'on donne des plateformes aux femmes, il faut essayer de toucher le plus de femmes possible. Et surtout, il ne faut pas que ce qu'on donne à certaines ait un impact négatif sur d'autres. Et encore une fois, vraiment représenter un seul modèle unique de beauté, on se rend bien compte aujourd'hui dans la société actuelle, et ce n'est pas que le concours Miss France, évidemment, c'est reflété par la publicité, etc. On se rend compte que ça a un impact négatif psychologiquement et physiquement, et sur la santé des filles aujourd'hui.
En quelques mots, Fabien Roussel, c'est un concours sexiste ? Vous adhérez à la vision d'oser le féminisme ? Vous
pensez d'abord, que... le concours Miss France, de mémoire, il a quand même évolué en quelques années sur les règles, les critères aussi, je pense, et j'écoute et je comprends ce que vous dites sur ces critères discriminants, parce que ce que j'entends, c'est qu'ils ne remettent pas en cause, vous ne remettez pas en cause le concours en tant que tel, mais plutôt de permettre à ce que toutes les femmes puissent y avoir accès avec des règles égales. Moi, il y a deux Miss France quand même
Nord,
de ma région. Il y a Iris Mittener et Camille Cerf.
Oui. Alors là, vous êtes coincé.
Non, je suis pas coincé, mais c'est vrai que c'est extrêmement populaire. Je vais croiser la Miss Nord-Pas-de-Calais bientôt.
Une mauvaise image de la femme.
C'est vrai que quand je vois le reportage de tout à l'heure. Enfin,
c'était en 1970.
Ah ouais, mais c'est grave. Donc heureusement que ça a évolué, parce que c'est la manière dont il parle des femmes en comparant avec le salon de l'agriculture,
Je pense qu'il le faisait de façon critique, péjorative. Oui. Ça ressemblait au salon de l'agriculture. Ouais. C'était dans la bouche de Bougrain.
Ah oui.
Enfin, je le connais un peu.
C'était pour critiquer. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'était comme ça.
Mais donc, c'est une critique à faire, oui.
Et donc, ça doit changer. Et vous avez raison de vous battre dans ce sens-là. Après, c'est vrai que la priorité des priorités aujourd'hui, à la limite, vous avez raison aussi. Mais moi,
il y en a d'autres.
Je me bats pour l'égalité.
Je vous assure qu'on fait d'autres choses.
Pour l'égalité salariale et l'égalité professionnelle, parce que les femmes perçoivent toujours 15% de moins de salaire que les hommes. Et ça, c'est insupportable. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister.
Reconnaître une prestation de travail dans le cadre du concours Miss France, ça fait partie du fait de se battre pour l'égalité dans le monde.
Tout à fait, j'ai bien entendu. Vous avez
raison. Merci beaucoup d'être venu ce soir. C'est à vous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Merci.
Ah, on commence tout de suite par un peu de douceur.
Oh, ça va faire du bien à tout le monde, je crois, Babette. Une vague de douceur sur le pays depuis quelques jours. Le pic, c'était aujourd'hui. Pour un 19 octobre, on parle de température printanière, estivale même.
Il fait un temps magnifique aujourd'hui sur le pays.
22 à Reims, 23 à Paris.
21 degrés à Lille, 24 à Rennes.
25 à Bourges.
La météo qui nous gâte.
Les températures s'envolent.
25, 27, 28, ce sera le maximum dans le secteur de Biarritz.
Cette météo fait le bonheur de ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter.
Les courageux ont même osé se baigner.
L'élection quand j'aurai gagné.
Bonsoir Thierry Fréret.
Bonsoir.
Journaliste
Elisabeth.
Spécialiste météo, et tout d'un coup la lumière est partie. On est dans le noir, mais c'est pas grave. Comment on explique oui, éclipse de soleil sur le plateau, c'est à vous. Comment on explique cette douceur inattendue?
D'une chaleur même, hein, puisqu'on a vécu quand même une journée estivale. J'avais appelé Météo France à la mi-journée, je les ai rappelés à 17h au moment où les températures étaient les plus élevées. Ah. Et bien à 17h, nous avions très exactement 29 degrés à Biarritz, 30 degrés à Cambo-les-Bains, toujours au Pays Basque, 28 degrés à Cap-Breton et à Biscarrosse. Et c'est dans le département des Landes qu'il a fait le plus chaud aujourd'hui, dans une station balnéaire, ce qui est plutôt rarissime. Il a fait très exactement aujourd'hui 31 degrés à Osgore.
31 degrés à Osgore.
Grave, et 24 à Paris.
Oui, c'est ça. C'est
sans oublier les 24 à Paris, parce qu'il a fait chaud quasiment partout. Mmh. Il a fait 25 degrés à Tours, par exemple, Indre-et-Loire, quand même.
La météo, c'est toujours aussi tout un vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que cet effet de fun, c'est ça, qui réchauffe?
Exactement. C'est un vent qui arrive en général d'Espagne, voire d'Afrique du Nord, et on l'appelle fun. L'effet de fun, c'est lorsqu'il franchit la barrière pyrénéenne et qu'il réchauffe l'atmosphère uniquement au pied des Pyrénées. Donc, d'une façon générale, l'Occitanie, mais plus précisément, précisément à la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, voire d'ailleurs le département de la Gironde.
Alors cette annonce de beau temps, regardez, évidemment certains en ont profité.
La douceur du soleil, la plénitude des lieux.
C'est très agréable de venir travailler, de passer un peu de temps le matin avant d'aller au boulot. Quoi.
Un temps comme ça, mais on ne peut pas rêver mieux. On peut pas, il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est impeccable.
J'ai enlevé l'écharpe, le pull.
Lance-feuille.
Oui, lance-feuille.
Là, ça fait quelques jours que ça dure. Hein. Je pense que dans deux jours, peut-être, on sera moins gâtés. Mais là, c'est. Et puis, elle est claire, elle est bonne, elle fait 20, vous rendez compte? Elle fait encore 20,5 là.
Alors Thierry Fréret, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas durer cette semaine.
Bah, ça ne va pas durer parce que les températures vont baisser. En revanche, la bonne nouvelle pour votre week-end, si vous désirez aller au Pays Basque ou en Gironde ou dans les Landes, il va y faire très beau, mais on va perdre d'ici le week-end entre 8 et 10 degrés, ce qui ne sera pas phénoménal. On va retrouver finalement ce week-end des températures tout à fait conformes à la saison, effectivement. Et ce ne sont pas des températures exceptionnelles. Il ne faut pas dire ça parce que c'est faux. D'abord, si on dit ça, c'est faux, effectivement, puisque c'était le 30 octobre 2001, très exactement, sur la grande plage de Biarritz et encore à l'ombre, il avait fait 30,7 degrés, autrement dit 31 degrés. C'était il y a 20 ans et on ne parlait pas encore du réchauffement climatique. Donc ne dites pas aussi, deuxièmement, que c'est exceptionnel, sinon on va faire rire tous les Landais, les Basques et les Girondins. Car depuis plusieurs générations, dans ces régions-là, dans ces départements-là, ils ont des printemps et des automnes estivaux.
Juste pour clore ce chapitre météo, je ne vais pas vous laisser comme ça. Babette, vous avez pris un engagement devant les téléspectateurs.
Mardi, alors là, ça va être incroyable. On va avoir du 25-30 degrés dans le sud-ouest pour fin octobre.
Donc on sera en maillot de bain sur le plateau de cet avis.
Chiche.
Ok.
Dans le sud-ouest, on a dit.
Non, mais je serai en maillot de bain mardi sur le plateau de cet avis.
Je viens.
Avec 28 degrés à Biarritz, mais on a 31 à Osgore.
Bah oui, 31 degrés à Osgore, oui, oui.
Alors, Babette?
Est-ce que je suis du genre à ne pas tenir mes froids? Mais j'accepte de me mettre en maillot de bain sur le plateau, c'est à vous, parce que j'ai un maillot de bain spécial.
J'ai bien fait de venir.
Alors, bravo. Rassurez-vous, ma belle.
C'est un maillot de bain Pierre Lescure. Ça résiste à tout. Ça a créé une chaîne, ce maillot de bain.
Alors, rassurez-vous, ma belle. Simplement, vous n'êtes pas toute seule dans cette
galère.
Oh oui. Joli. Un très solidaire ce soir.
Tu penses bien. Et là, c'est bizarre, il y a le menton qui rentre dans le nez, là.
Oui, parce qu'il fallait que je le tire pour que le nez soit droit. Pardon, tout ça devant peut-être un futur président de la République, c'est pas sérieux.
On va le faire maintenant.
Bon, merci Pierre d'être solidaire. Merci beaucoup.
Je vous en prie, c'est un plaisir. Double plaisir.
Invité du 5 ce 5 ce soir, on part aux États-Unis.
Oui, comme ça vous aurez le temps de vous rhabiller. Alors c'est assez rare, un mouvement de grève massif. Des milliers de salariés, des dizaines de milliers de salariés qui cessent le travail. Et une nouvelle expression dans les JT américains.
American workers are testing their power. There's even a name for it, Striketober.
They're calling it Striketober. Hollywood, John Deere, Kellogg's, even nurses.
More are preparing to walk out in what some on social media have dubbed Striketober.
Of course, its own hashtag, call it Striketober.
How do you like this name, Striketober?
Strike. October. Alors, vous l'avez entendu, c'est la contraction de strike, la grève, et de October, des manifestations à travers le pays, conditions de travail, faible rémunération. Le mouvement touche de très nombreux secteurs. Les soignants, les ouvriers, l'industrie du spectacle, l'agroalimentaire. On prévoit 100 000 salariés américains qui pourraient faire grève ce mois-ci.
People are finally fed up. They're fed up and they're tired of it.
They can't continue to take our money and take our money and take our money.
CEO continues to get massive raises. And it doesn't add up when it comes to what they offer to us.
I think that people are realizing what their worth is.
Nobody ever wants to really go out on strike. They just want a fair shake.
Le climat social avait connu des tensions ces dernières années déjà aux États-Unis, mais clairement la pandémie n'a rien arrangé. Peu de réponses patronales pour l'instant. Écoutez toutefois cette responsable de Kellogg's. Vous connaissez la marque, les céréales de vos enfants peut-être. Cette responsable de Kellogg's qui tente de calmer le jeu.
We value all our employees and recognize their efforts, especially during this global pandemic. Being away from work puts our people and their families in a difficult position and can create financial hardships. Our number one priority is to get back to the negotiations table and reach a contract so our employees can get back to their jobs and their lives.
Fabien Roussel, le Striketober, il y a aussi le hashtag QuitMyJob, hein, pour ceux qui démissionnent carrément directement. Ça vous surprend des grévistes aux États-Unis?
C'est pas dans leur culture, mais ça ne me surprend pas parce qu'après cette pandémie, il y a encore des grandes multinationales, des grands groupes qui continuent de distribuer des profits sans augmenter les salaires et avec des conditions de travail toujours pénibles. C'est ce qu'on a entendu, c'est ce qui existe, c'est quand même un petit peu ce qui se passe un peu partout, pas que aux États-Unis.
Par exemple, vous parlez de pénurie de main-d'œuvre. Ça a modifié le rapport de force.
Oui, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre parce que les salaires sont bas, les conditions de travail sont pénibles et aujourd'hui, pour rendre attractifs ces métiers, il faut améliorer ces conditions de travail et augmenter les salaires. Donc, ils ont raison, bien sûr, ils ont raison de manifester, de se mettre en colère. On n'a pas vu ça depuis longtemps, mais c'est parce que la situation, elle est grave, elle est tendue, quoi. Enfin, mais c'est comme en France, on a fêté la journée internationale de la pauvreté, il y a de plus en plus de pauvres dans notre pays, et on voit en même temps des profits qui continuent de s'accumuler. Donc, à un moment donné, la cocotte, elle explose. Voilà, aux États-Unis aussi. C'est bien.
October.
Voilà. Thomas Pesquet doit faire son retour sur Terre à la fin du mois.
C'est passé après six mois à bord de la spatiale internationale, lui doit commencer à trouver le temps long, à s'ennuyer peut-être. Alors on sait qu'il aime partager son quotidien, mais là, on a carrément eu droit à une leçon, un tuto que vous voyez, comment plier son linge en apesanteur. Cela dit, c'est peut-être utile à l'heure de rentrer sur Terre. Peut-être fait-il ses valises, Thomas
Pesquet. Déjà, il y en a qui ne le font pas avec l'apesanteur tout court.
Oui, cela dit, ça a l'air assez compliqué pour le coup. Je me moque de lui. Mais certains ont voulu lui préparer une petite blague il y a quelques jours. Cette idée amusante. On devrait tous se déguiser comme ça quand Thomas Pesquet reviendra sur Terre, déguisé en personnage de la planète des singes, vous le voyez. Alors l'astronaute a répondu, dis donc, vous êtes au courant que j'ai Internet ici. Ce à quoi un autre tweeteuse avec beaucoup d'esprit a répondu, on est au courant, en reprenant l'info selon laquelle un site pornographique est devenu le premier en septembre, le premier site internet à enregistrer une inscription depuis l'espace. Alors il y a les moqueurs, il y a les taquins et puis il y a les poètes. Depuis des années, on connaît les photos de Thomas Pesquet depuis l'espace. Il y a cet internaute qui s'amuse à reproduire depuis chez lui avec des objets du quotidien, une photo de la Lune par exemple avec un bouchon en liège. Vous voyez, là c'est très simple, je commence avec les plus simples. Il y a cette photo aussi de relief et de paysage du désert depuis l'espace, la même prise dans une rue entre les pavés. Je crois que vous avez compris l'idée. Ma préférée à l'instant, c'est cette photo de l'océan et d'une côte à bricoler chez vous en prenant une photo de pizza sur une assiette
bleue.
C'est
vachement bien fait.
On pourrait s'y méprendre pour le coup, honnêtement. Et puis, bon, celle-ci, c'est peut-être la plus belle. Ce volcan entouré de nuages vu de l'espace, reproduit à l'aide de cacao et de sucre glace. Voilà pour les complotistes qui pourront dire, accuser Thomas Pesquet. Oui, il a pris toutes ses photos depuis sa chambre, ça semble évident maintenant.
Merci beaucoup, Mathieu Béliard. Fabien Roussel, ma France heureuse, solidaire et digne. C'est aux éditions du Cherche Midi. On rappelle que vous êtes candidat aux élections présidentielles. Thierry Fréret, la voix de la météo, très longtemps sur Europe 1 et CNews. Merci d'être venu ce soir.
Merci à vous.
Sur le plateau de C'est à vous. Est-ce que tout le monde peut se mettre du gel, s'il vous plaît? C'est très important. Est-ce que tout le monde peut prendre sa température?
Ça, c'est de l'eau.
Ah oui.
Bah oui, mais normalement, on était censé avoir des bouteilles de gel.
Parce que vous avez un invité.
On a un invité, oui, parce que dans un instant, sur notre plateau, on va recevoir un homme qui est passé du stade hypochondriaque pendant la crise sanitaire à celui de flipochondriaque.
Tiens. Je vais pas mourir du coronavirus.
Non, ma chérie, tu vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien.
Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça, ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer. Et tu meurs et tout.
Non, Martin, stop, arrête là. Non,
Non ! Non, 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 attends, n'ouvre pas. C'est le Covid.
Laurence Arnay, Danny Boone. On est ravis de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette comédie aussi drôle que tendre et qui raconte le quotidien d'un immeuble parisien confiné aux 8 rues de l'Humanité, disponible à partir de demain sur Netflix. Je ne vous sers pas la main, monsieur Boone.
Hein? Bonjour, Nolan.
Exactement.
J'ai beaucoup aimé le maillot de bain.
Ah, oui. Je peux prendre ma température. Attends, ça bip. 35,6.
Laurence,
faut être
un petit peu plus agressif.
Comment il le faisait? Comment il le faisait? Comment?
Non, mais,
combien de fois par jour? Ah ouais.
Non, régulièrement.
Pas, 15-16 fois.
Non, 16 fois.
On ne compte pas, on ne compte si. Pas. On si. Est prudent, c'est tout. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à enlever le bip, j'ai lu le mode d'emploi. Et du coup, elle ne savait pas.
C'est-à-dire que la nuit.
La nuit,
ouais,
voilà.
La nuit, les
non,
enfants,
mais c'est dormir, infernal.
Même Laurence. Le chien.
Comment ça, même le chien?
Il a mis des petits chaussons pour aller dehors.
Des chiens.
Mais comment ça? Il avait quelle température?
Non, ça le va, chien. Ça allait.
Il n'avait pas le Covid. Non, mais vous aviez carrément lancé des SOS sur les réseaux sociaux, Laurence. Hein. 15e prise de la journée, mon quotidien avec un hypochondriac. Help! Non, mais vraiment, vous étiez au bout de votre vie. C'était vraiment comme ça.
Oui, oui, oui.
Mais elle est aussi très hypochondriaque.
Ah bon?
D'une autre manière. Elle est dans le déni, en fait. J'ai un truc grave, mais de toute façon, je sais que je vais partir. Autant profiter du peu de moments qui me restent.
Ah oui, je vais pas aller vérifier, je vais pas.
Ah oui, vous faites un sacré duo, quoi. Ouais. Mais en revanche, vous ne vous aspergiez pas de gel hydroalcoolique le visage. Vous ne vous laviez pas.
Non, mais on avait quand même du vinaigre blanc. Quand
ça
même,
lave
ça
pas,
sentait
le
fort à la maison.
Pourquoi le vinaigre
ça
blanc?
Ça sentait fort, oui.
Dehors.
Ça ne lave pas, non?
Non, ça désinfecte.
Et vous faites partie de ces Français qui javelisaient leurs courses et les laisser sur le palier pendant 24 heures.
On a fait ça quelques jours après. Ça,
vous l'avez fait quand même.
Non, mais le problème, ouais. C'est qu'on...
Bah oui. Comme on a était, eu peur, comme tout le monde. Hein.
Ouais,
oui.
On avait en continu les infos et ils essayaient d'inventer des trucs nouveaux parce qu'il fallait bien qu'ils nourrissent l'antenne. Et à un moment donné, on a dit, ah oui, donc le virus tient sur le bois pendant 4 heures, sur le plastique pendant 6, mmh. Et sur le métal cartons. Et sur le carton. Alors, c'était terrible. Ouais. Donc, nous, on comptait les heures en fonction des matières.
Moi, j'ai surtout retenu qu'il fallait boire du champagne. Je suis arrivée un jour avec une bouteille, j'ai dit, fais boire du champagne.
Ça te retient les bons trucs.
Et vous en avez donc bu beaucoup.
Beaucoup.
Vous allez boire de la bière aussi.
Et tout ça pour rien, parce que vous avez chopé le Covid, Dani.
Alors, je l'ai chopé, je ne sais pas qui me l'a refilé.
Bah, c'est Laurence.
Ah bon? Et oui, non, on s'est isolé. Oui, ouais, au deuxième confinement.
Ah oui.
Et juste avant le tournage.
Mais là, pour le coup, vous avez été angoissé ou pas?
Oui, oui. D'ailleurs, c'est dans le film. J'ai acheté un oxymètre, et je l'avais mal mis, et j'avais 85%, entre 80 et 85% de taux de saturation d'oxygène, et ce qui est très peu. Et donc j'ai appelé mon médecin, et j'ai dit, oh, j'ai 85%, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, à 85%, déjà, tu ne parlerais pas. Et il me dit, tu as du mal le mettre. Moi, j'avais mal mis,
ouais. Laurence, on le sait, les hommes, dès qu'ils ont un rhume, c'est la fin du monde. Mais ouais. Alors là, le Covid, qu'est-ce que ça a donné? Il était à l'article de la mort ou pas, Dani?
Oui, hein, il y a eu des étapes, en fait. Le problème de ce virus, c'est que c'est très angoissant, parce qu'on dit qu'il faut attendre 5, 6, 7 jours pour savoir si on va y passer ou pas, quoi. Mais ce qui était dangereux, c'est qu'on ne sentait plus rien. Donc, on arrivait à prendre le petit déjeuner dans un nuage de fumée, de tartines grillées. En temps, ça va, on se voyait presque plus.
Même quand ça sent rien, mais d'ailleurs, il y a une réplique du film, ça ne sent rien. Oui, mais je ne sens même plus que ça ne sent rien. Franchement, ce film est formidable. Ouais, il est drôle parce que tout y est. Le scientifique fou, le rassuriste, complotiste, odieux, sexiste, misogyne, François Damiens. Le scientifique fou, c'est Yvan Attal. Le Covid, même pas peur, ça c'est François Damiens. Tom Leb dans la peau d'un coach sportif qui grossit, comme on l'a tous fait pendant le confinement. Ou encore Liliane Rovert, la patronne du bistrot qui va trouver la solution pour écouler son stock de prunes. Et se faire un peu d'argent de côté.
Et c'est arrivé après qu'on a écrit ça, et à Bordeaux, ils ont fait ça...
Ils ont utilisé de la prune pour...
Oui, de l'alcool, parce qu'ils produisaient moins de vin, ils ont créé leur...
Ah voilà, donc c'est prémonitoire, et vous y avez pensé avant. Tout est dans ce film, rue de l'humanité. On en parle longuement avec nos invités, Laurence Arnay et Danny Boone. Merci Fabien Roussel d'être venu ce soir.
Merci à vous.
À tout de suite avec Le Vu, la Story Média, L'Œil de Pierre. Et Grégory Porter, génie du jazz. Oui. Rien que pour vous.
Formidable.